Bonjour, Raymond Richard au micro pour l'émission Bienvenue en Europe. Eh bien, chers auditeurs, avec M. Michel Bourgès-Monnery, nous vous retrouvons pour la première émission de l'année. Et eh bien, nous sommes contents de vous retrouver. Et on vous souhaite bonne année, bien sûr. Et bonne année à l'Europe. Ceci dit, eh bien, on commence par des bonnes nouvelles, puisque finalement, il y a eu des accords entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui montrent que, d'une certaine manière, alors c'est vrai, 4 ans de parlementation et de, je sais pas quoi, de bavardage, de rencontres, etc. Quelquefois, ça peut lasser nos opinions et on se demande aussi si nos hommes politiques ne prennent pas de temps en temps la mesure de cette extraordinaire empilement de structures, de bavardages, de rencontres dont les gens se lassent. Enfin, le résultat est positif.
Vous avez tout à fait raison de souligner cela. Il est vrai que dans le cas britannique, le Premier ministre, M. Johnson, a fait tout pour essayer de ramener la couverture en quelque sorte à lui, pour faire peser tout ce qui n'allait pas sur l'Union européenne et flatter ainsi une partie de son électorat. Alors, ceci étant, il y a eu un accord à la dernière minute. Cet accord vient quand même un peu d'espoir pour tout le monde pour commencer la nouvelle année 2021. Mais comme l'a très bien souligné le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, c'est quand même un accord perdant-perdant. Et on doit regretter quand même qu'après plus de 40 années de vie commune, tout d'un coup, on se sépare. Mais enfin, autant se séparer en bons termes. Et l'accord qui a été mis
et en négociation aussi,
quand même, il y a des négociations positives. Négociations qui ont finalement abouti à un accord. Et cet accord préserve, et là, on doit souligner l'unité des Européens face au Royaume-Uni, qui ont fait bloc tout au long des négociations avec les Britanniques, qui, eux, avaient tablé sur l'éclatement et essayé de flatter un tel pays pour essayer de trouver des dissensions et avoir un accord qui leur aurait plus convenu.
C'est-à-dire donc, premier point positif, ça a scellé l'accord des autres.
Ce qu'ils voulaient, c'est l'accord entre pays européens. Et donc, au moins, il y aura moins de catastrophes que celles qui étaient annoncées, non pas uniquement à regarder les queues de camions du côté de la Manche, mais de chaque côté de la frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais surtout sur le plan économique. Il faut dire qu'il y a quand même des échanges nombreux avec le Royaume-Uni, étant entendu que, comme on l'a déjà souligné à plusieurs reprises,
l'Angleterre étant une île, il faut quand même qu'elle reçoive de la nourriture.
Le plus grand intérêt pour le Royaume-Uni, c'est d'avoir accès au marché européen, parce qu'ils ont besoin beaucoup plus du continent que nous de leurs produits. Et donc les chiffres, les statistiques le montrent tout à fait clairement. Donc il y a eu un accord qui permet au Royaume-Uni d'accéder directement, comme auparavant, au marché unique, mais en appliquant les règles du marché unique. Et alors, c'est cela qu'ils ne voulaient pas, ils ont fini par lâcher. Alors évidemment, plus, ce lâchage a été obtenu parce qu'il a fallu, que pour que tout le monde se mette d'accord. Donc les Européens sont convenus qu'on ne pourrait pas, on d'accord pour le Royaume-Uni qui ne voulait pas que la Cour de justice européenne soit le juge en dernier ressort. Donc il y a un comité spécial qui a été mis en place pour faire en sorte que tout ceci rentre dans l'ordre. Donc c'est un conseil de partenariat avec des représentants du Royaume-Uni et de chacun des États membres de l'Union européenne. On verra ce que ça donne. Mais surtout, s'il y avait une concurrence déloyale, parce que c'était ça qu'on craignait.
C'était ça l'enjeu.
Eh bien, on peut remettre des droits de douane immédiatement sans attendre. Donc, il y a cette menace vis-à-vis du Royaume-Uni. Attention, si vous ne jouez pas le jeu correctement, eh bien, nous, on referme à double tour.
On referme le passage.
Donc, c'est pas leur intérêt. Alors, évidemment,
il y a aussi quand même l'aspect de l'Irlande qui est assez intéressant.
L'aspect irlandais, on s'inquiétait beaucoup à commencer par les Irlandais. Et là, c'est une situation assez particulière du fait que l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni,
n'a pas de frontière avec l'Irlande du Sud, reste
unie, en fait, dans le marché unique. Elle a un statut spécial qui fait qu'elle est liée au Royaume-Uni, mais d'une manière plus symbolique qu'autre chose. Et il y aura des contrôles, mais des contrôles qui seront à vérifier comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner, parce que c'est un peu compliqué, sur l'origine des marchandises. Mais il n'y aura pas de frontières, entre l'Irlande.
C'est quand même une sacrée usine à gaz quand on voit tout ça.
Oui, tout à fait. Mais au moins, il y a, parce que là, la situation était véritablement dramatique pour l'île d'Irlande. Alors, est-ce qu'on s'achemine peu à peu vers une réunification
de l'Irlande?
C'est une chose à voir dans le long terme, on ne sait pas. Du côté de l'Écosse, on sait très bien que le lendemain, les Écossais ont dit « mais nous, on veut être indépendants, on ne veut pas quitter l'Union européenne, on nous l'impose ». Enfin, on verra, tout ça est du côté des
L'avenir
Britanniques.
L'avenir est en suspension. Mais... Et là aussi, c'est intéressant parce qu'il me semble que l'élection des démocrates aux États-Unis a fait que Boris Johnson ne pouvait pas compter sur l'appui américain pour négocier avec l'Europe. Je crois que là, il y a eu quelque chose aussi qui s'est passé parce que, autant que je le sache, Monsieur Joe Biden était très intéressé à la question irlandaise.
Tout à fait, parce qu'il est d'origine irlandaise et donc il trouvait ça, il n'était pas du tout d'accord à ce qu'il y ait un revirement du côté britannique tel que ça avait été mis sur la table pendant un moment, parce que M. Johnson avait fait même voter la Chambre des députés, la Chambre des représentants, non, ça c'est les Américains, en
oui.
tout cas leur...
les communes.
La Chambre des communes, voilà, je cherchais le mot, pour remettre en cause la frontière et le régime spécial d'Irlande du Nord. Donc là, il a fait une reculade tout à fait. Il a retiré cette action.
Cette excessive
demande. Les discussions
demande.
Étaient au niveau de la Chambre des Lords. Et il voulait absolument passer outre. Et il s'est aligné là-dessus. Alors, il a aussi lâché du côté de la pêche.
Oui, alors c'est la pêche aussi. Ça, c'est, je vous disais, il y a trois points. Les fils de camion, l'Irlande et la pêche.
Et en ce qui concerne
plus le reste.
La pêche, alors c'est devenu, on en parlait beaucoup dans les médias français, parce qu'évidemment, cette partie est plus visible que le reste du commerce, alors qu'elle ne représente pas grand-chose sur le plan commercial.
Elle ne représente pas grand-chose sur le plan commercial, mais
sur
pour les pêcheurs.
Plan symbolique, voilà, pour les pêcheurs, évidemment, qui sont les premiers intéressés, c'était beaucoup. Donc, les Britanniques disaient, nous voulons être indépendants, nos eaux territoriales nous appartiennent. Et donc on ne veut pas avoir les pêcheurs du continent chez nous. Et finalement, ils ont mis de l'eau dans leur vin, pour ne pas dire...
Il y a des accords transitoires sur plusieurs...
Donc sur 6 ans, voilà, au lieu d'avoir...
Années.
Au départ, ils voulaient que 80% de la pêche, des produits de la pêche pris par les Européens continentaux leur soient reversés et ne soient pas... Donc, que les Européens n'avaient le droit qu'à prendre que 20% des poissons britanniques, qu'il y ait un accord comme cela.
Et là, puis, en fait, finalement, les quotas de pêche ont été largement revus.
Et finalement, c'est que 25% sur 6 ans. Donc ça veut dire que c'est à peine 5% par an de moins chaque année que les pêcheurs, notamment français, ne pourront plus pêcher, entre guillemets. Étant entendu qu'ensuite... c'est écrit dans l'accord, qu'il y aura des renégociations annuelles pour faire en sorte que tout le monde...
Il faut aussi sauver là quand même.
Et entre-temps, l'Europe,
à la ressource,
y compris au niveau européen global, mais que national, il est entendu que on va venir en aide aux pêcheurs pour pallier justement à cette difficulté du fait qu'ils auront moins de revenus que ce qui était prévu auparavant. Mais en tout cas, là aussi, on peut dire que c'est quand même une avancée, une certaine victoire pour l'Europe d'avoir réussi à négocier tout cela. Alors maintenant, tout est mis en place.
N'est pas, oui.
On verra bien comment tout cela tourne. C'est sûr qu'il y aura des aléas à l'avenir. Mais en tout cas, on a toujours les moyens de... pouvoir se défendre correctement et empêcher que, précisément, le Royaume-Uni soit à la fois dedans et dehors, et soit un espèce de nouveau Singapour qui créerait une concurrence déloyale à nos portes, tout en voulant nous refournir leurs marchandises qui n'auraient pas suivi les mêmes normes. Donc les normes européennes, la législation européenne reste en vigueur obligatoirement pour les produits qui viendront du Royaume-Uni. Donc là, tout ceci est quand même très, très intéressant.
Sur le plan du commerce international, de ce point de vue-là, il faudrait qu'on ait la même fermeté que celle affichée vis-à-vis du Royaume-Uni avec les pays tiers et notamment la Chine ou ce genre de pays.
La Chine, il y a précisément un accord qui est sur le point d'être achevé.
Pour lequel
précisément, l'Union européenne enfin a là aussi obtenu en disant nous sommes unis, nous représentons l'un des plus grands marchés mondiaux.
Donc nous avons nos exigences.
Nous avons nos exigences et on s'est rendu compte notamment à travers la crise du Covid qui a été un révélateur entre autres du fait que nous étions trop dépendants par rapport à des productions stratégiques, nous étions trop dépendants de l'extérieur. Donc là aussi,
trop dépendants de la Chine et donc revoir. C'est intéressant parce que ça oblige à revisiter justement la manière de concevoir les échanges, puisque en fait c'était toujours le moins cher possible et les Chinois c'était évidemment le moins cher possible d'une part parce que le yuan est largement sous-évalué et d'autre part parce que la Chine ça représente quand même une bonne partie de la population mondiale. Mais je crois qu'il y a là aussi à revoir les normes européennes. Pourquoi les produits qui viennent de l'extérieur ne sont pas astreints aux normes qui sont des normes internes?
Maintenant, justement, c'est un...
C'est là qu'il y a des choses à revoir.
Il y a eu un revirement qui fait que dans tous les accords, maintenant, et c'était bien souligné, et commencé par le niveau de la Commission européenne, on a verrouillé toute cette partie-là. Dans les autres accords avec le Canada, avec tous les accords qui ont été... Les normes européennes devaient primés et on refusait qu'on puisse importer, par exemple, des poulets aux hormones ou je ne sais quel autre.
Oui, voilà. Heureusement qu'il y a le Parlement là. Hein.
Maintenant, c'est beaucoup plus verrouillé. Alors, il y a évidemment toujours des choses à revoir, mais il est clair que avec toute cette crise, à la fois, il y a eu les crises financières, économiques et maintenant celle de la santé, la pandémie. Ça était une occasion finalement pour l'Europe de se ressaisir pour faire face à la situation en se disant « Non, on ne peut plus être dépendant comme on l'était, toujours. » Et beaucoup de firmes qui avaient délocalisé sont en train de réviser leur stratégie, et sont en train de rapatrier au moins l'essentiel. Alors, il y aura toujours, au niveau international, des échanges parce que l'Europe est l'un des plus grands partenaires internationaux.
Et puis surtout aussi parce que...
Et le monde entier a besoin de l'Europe. Oui. Donc c'est là où les choses quand même, il y aura, mais pas un multilatéralisme naïf comme ça l'a été autrefois. Pas mal d'idées qui sont lancées sur le plan international pour réviser les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale
du commerce,
pour précisément préserver un certain nombre de données et éviter qu'il
notamment
y ait une sorte de piratage par certains producteurs qui voudraient refiler leurs marchandises à bas coût et avec des normes absolument insupportables.
Oui, mais c'est vrai que là, on voit des choses sur lesquelles les citoyens disaient « Bon, ben, il n'y a rien à faire, donc tant pis pour l'Europe, on n'en veut plus ». Et finalement, on perçoit que ce ressaisissement est quand même très important et doit se poursuivre parce qu'autrement... Un monde dans lequel seul compte le prix et donc la finance, c'est vrai que
c'est tout à fait négatif. Et ça, on peut dire que c'est une nouvelle année qui se présente 2021, alors que la fin de 2020 était véritablement préoccupante à beaucoup de points de vue. Et là, au moins, on s'aperçoit que peu à peu, 2021, qui s'ouvre dans un contexte, il est vrai, absolument sur le plan historique,
Complètement négatif.
Complètement négatif, en tout cas unique dans l'histoire. On n'a jamais vu...
Si, il y a eu des choses hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça devait être terrible.
Oui, mais une pandémie pareille qui touche tout le monde, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, il y a eu des cas dans le passé, évidemment, on sait, la grippe espagnole, la peste, etc. Mais
on avait oublié.
On avait oublié cela. Et il y a quand même eu, dans ce contexte, un ressaisissement de l'Union européenne, qui veut défendre ses intérêts correctement. Il y a eu plusieurs ouvertures aussi qui sont faites, à la fois sur le plan de la pandémie, on en touchait un mot, avec la découverte de vaccins dans un temps absolument record. Alors on pourra y revenir, parce qu'il y a toujours des critiques à ce sujet.
Oui, c'est intéressant, parce qu'effectivement, on voit que la solidarité
L'Europe a joué, là aussi, un rôle très très important pour que précisément, le vaccin soit diffusé au niveau mondial, mais d'abord européen, de manière équitable entre tous les pays, avec une coordination au niveau de Bruxelles, et avec l'accord des États membres, qui partaient d'abord en ordre dispersé, là aussi. Et face à la difficulté, on s'est rendu compte, là aussi, qu'il valait mieux être unis que séparés. Alors, il y a des critiques, on y reviendra, mais ce que je voudrais, peut-être pour faire un petit tour d'horizon rapide pour la nouvelle année qui s'ouvre, c'est de dire qu'il y a une nouvelle présidence tournante qui se met en place
avec le Portugal,
qui a pris cette présidence. Cette présidence dure pour six mois, jusqu'à la fin juin. Elle sera suivie par la Slovénie et la France
l'année prochaine,
début janvier 2022. Mais cette perspective de la présidence française est très importante parce que précisément, la France a beaucoup d'idées pour essayer de confirmer la relance de l'Europe. Entre-temps, la présidence portugaise hérite de la présidence allemande.
Qui a été
On se demandait vraiment, la pauvre présidence portugaise à la fin de l'année, qu'est-ce que ça va donner? Elle aura le problème du Brexit à régler, le problème du financement européen, des budgets, etc.
Madame Merkel a très bien géré les choses. C'est une grande européenne.
Tout a été réglé en quelque sorte, si bien que la présidence portugaise hérite finalement
d'une situation
beaucoup plus saine, et elle va gérer en fin de compte la relance, avec un accent d'ailleurs qui sera mis sur la dimension sociale. D'ailleurs, entre parenthèses, le 24 janvier prochain, il y aura une nouvelle la présidence de la République du Portugal sera renouvelée avec... on verra qu'est-ce que ça va donner, mais ça n'a pas d'incidence avec la présidence du Conseil. Parce que, rappelons juste un mot, la présidence du Conseil, c'est la présidence tournante tous les 6 mois
des ministres qui représentent
les États, pas les chefs d'État. Les chefs d'État, c'est le Conseil européen, qui est présidé par M. Charles Michel, un Belge, qui, lui, est en position fixe. Là, la présidence tournante, c'est une présidence tous les 6 mois qui doit permettre de mieux sensibiliser les États à leur appartenance à l'Union européenne. Et c'est important sur le plan plutôt symbolique.
C'est quand même eux qui gèrent les affaires.
Ils gèrent les affaires courantes, mais sur base d'un plan et d'un programme qui a été mis au point avec la Commission européenne. J'en parle en connaissance de cause parce qu'à chaque présidence, à l'époque où j'étais à Bruxelles, j'étais chargé de coordonner précisément le programme, le passage d'une présidence à l'autre, et de vérifier avec les représentants de l'État qui devaient prendre la présidence les sujets qu'on allait mettre en avant par rapport au programme multiannuel de la Commission européenne. Alors, je referme la parenthèse, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que grâce à la présidence allemande, comme vous l'avez souligné, le budget avait été bloqué à la fin de l'année par Pologne,
les pays d'Europe de l'Est,
et la Hongrie.
Oui, c'est ça. Pologne-Hongrie.
Et finalement, là aussi, Mme Merkel a joué savamment son rôle de trouver des compromis, mais pas au désavantage de l'Union européenne, mais de faire avaler la pilule en quelque sorte à la Pologne et à la Hongrie, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça.
Qui retirent des avantages, eux, de
l'Europe. Et évidemment, ils ne pouvaient pas se permettre non plus de ne plus avoir accès au financement européen qui représente dans leur PIB une part très très importante. Donc, ils ont fini par lâcher, accepter l'accord. Le Parlement européen, dans la foulée, a fin décembre voté le nouveau budget. Ça y est, c'est acquis. Donc il y a le budget pluriannuel pour jusqu'en 2027. Il y a le plan de relance qui était lié, qui également est acté. Donc tout cela, c'est vraiment une ouverture formidable. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer. Ensuite, le Brexit,
on l'a dit, ça y est,
les Portugais, ils vont mettre l'accent
sur l'environnement.
Sur l'environnement, sur la dimension sociale aussi, mais ils appliquent correctement, ils se sont engagés à mettre en place tout ce qu'il fallait pour que le plan de relance soit aussi le plus efficace possible, et en accord avec précisément tout ce que Madame von der Leyen, président de la Commission européenne, avait mis sur la table. Donc voilà, on a quand même un début d'année qui s'ouvre avec beaucoup plus d'espoir. Sur le plan de la santé, il y a là aussi...
Là, on peut dire que le Covid a vraiment favorisé l'Europe, là, de ce point de vue-là.
Indirectement, comme on pouvait même la position de M. Trump au cours de ces dernières années a fait en sorte que les Européens se sont dit il faudrait peut-être qu'on se prenne en charge nous-mêmes et qu'on compte pas trop sur les États-Unis comme ça a été dans le passé. Donc il y a maintenant une nouvelle présidence qui va se mettre en place là-bas. On verra comment tout ça va se mettre en place, mais il ne faudra pas attendre des miracles non plus sur le plan du commerce.
Non, parce qu'ils sont quand même tout à fait intéressés. Les États-Unis sont intéressés à ce qui intéresse
les
États-Unis.
Mais donc, l'horizon se découvre. Sur le plan de la santé, il y a quand même, là aussi, on entend souvent des critiques. Ah, mais oui, mais on ne va pas avoir assez de vaccins parce que... Avant, on n'avait pas les vaccins. On disait, il faut avoir des vaccins. Quand on les a, on n'est jamais content. Donc, ah oui, mais on en veut plus. Même s'il y a une bonne partie des populations qui disent, nous, on n'en veut pas. Et ainsi de suite. Mais ce qu'il faudrait souligner, c'est le rôle qui a été joué par l'Europe dans cette situation, et en particulier sur le plan financier. L'Europe a mis en place un système qui fait qu'elle a pris des dispositions vis-à-vis des grandes firmes pharmaceutiques, en particulier 6 grands laboratoires internationaux, avec lesquels elle a passé des accords, des pré-contrats, avec des centaines de millions de doses de vaccins à chaque fois, ne sachant même pas à l'époque quel serait le vaccin qui arriverait le premier. Or, il se trouve que le premier, c'est ce vaccin Pfizer BioNTech. Et donc là, il y a 300 millions de doses. C'est quand même énorme quand on voit qu'il y a que l'Europe continentale, l'Union des 27, fait 450 millions de personnes. Donc, alors évidemment, ça suffira jamais assez, mais il y a une nouvelle commande qui est passée et avec sur base du même contrat. Entre-temps, il y a un nouveau vaccin Moderna qui vient de recevoir les feux verts des agréments européens. Là aussi, il y a des millions de doses qui vont être mises sur le marché. Et parallèlement à tout ceci, derrière, il y a les autres vaccins qui sont toujours en préparation, avec lesquels des centaines de millions de doses seront, le moment venu, mises à disposition. Alors, il y a un comité de pilotage au niveau européen, dans lequel siègent tous les représentants des États membres, et c'est leur intérêt à tout le monde pour que, justement, il y ait une équité dans la distribution. Alors, comme toujours, il y a certains qui disent « Ah oui, mais d'abord nous et après on verra », Les Hongrois, malheureusement, confirment un peu, en tout cas le gouvernement en place, toujours ce même gouvernement qui avait fait des problèmes au moment de l'adoption du budgétaire, a dit ah ben, ils ont commandé, sans le dire à personne, directement des vaccins aux Russes. Le Spoutnik, je ne sais plus combien, 5 je crois. Et puis ils se sont aperçus que les Russes n'arrivaient pas à leur fournir assez de vaccins. Alors tout d'un coup, ils se sont dit « Ah oui, mais c'est vrai qu'au niveau européen, quand même, c'est pas mal ». Alors, ils se reviennent dans le giron européen. Mais je tenais à le dire parce que même ceux qui essaient de prendre la tangente pour dire « notre intérêt national est le premier », etc., eh bien, ils se rendent compte que leur intérêt national, c'est précisément de ne pas quitter l'Europe.
Et... C'est intéressant ce que vous dites parce que ça rejoint un peu les propos du pape dans l'encyclique qui n'était pas du tout pour être destinée à l'Européenne, aux Européens, dans lequel il parle de « tous frères ». Et dans les premiers paragraphes de cette encyclique, il évoque l'exemplarité de la construction européenne et il évoque aussi comment les égoïsmes nationaux s'opposent à la construction européenne et que finalement, sa conclusion, c'est la nôtre aussi, c'est que le mieux n'est jamais acquis et il faut toujours se battre pour le mieux, pour cette coordination. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lorsque vous soulignez l'attitude hongroise, mais on a vu l'attitude de certaines régions françaises qui se sont dit, eh bien nous, on va acheter directement des vaccins. Et ce sont les entreprises qui ont passé des contrats avec l'Europe, enfin avec les grandes structures, qui disent, eh bien non, nous, nous traitons avec l'Europe, nous ne traitons pas avec vous. Et je crois que là, il y a aussi peut-être à se poser la question, quels citoyens sommes-nous et quelle solidarité a-t-on vis-à-vis des autres? Parce que finalement, le Covid ne fait pas exception de personne. Tout le monde est atteint, qu'on soit noir, blanc, jaune, d'un pays pauvre ou non. Et pour l'Europe, c'est la même chose. Et je crois que c'est peut-être se rappeler qu'on est quand même dans le même bateau humain et que ça me paraît très important. La construction européenne, c'est un modèle, mais il faut vraiment y adhérer et puis faire taire nos nationalismes et nos égoïsmes. Enfin bon, voilà, c'est le pape en parlant de...
Non, le pape...
Fratelli tutti...
C'est tout à fait bien de souligner cette dimension-là, surtout dans le contexte actuel, parce qu'au niveau de la démocratie, on vient de voir ce que ça donne aux États-Unis, avec... cette espèce de coup d'État, entre guillemets, avec l'invasion du Capitole à Washington, la démocratie est toujours quelque chose de fragile. C'est clair qu'un régime autoritaire, régime qui n'est pas démocratique, il n'a pas ce genre de problème où il y a la liberté de parole, la liberté de jugement, des juges indépendants, etc.
On le voit en Russie, Chine, Hong Kong...
On a beaucoup d'exemples sur la planète qui montrent... Donc c'est fragile,
les petits, les grands.
Et chacun a le droit à la parole, y compris ceux qui sont absolument négatifs et qui veulent précisément ne pas suivre des règles ouvertes.
Et qui aimeraient prendre le pouvoir pour eux-mêmes.
Exactement. Et donc ça, c'est toujours important de le souligner. La démocratie, c'est fragile. En ce qui concerne les questions de santé, qui seront toujours l'actualité, évidemment, pendant... encore
pour
un bon
temps.
Moment, tant que nos populations ne parviendront pas à être toutes vaccinées, ça va prendre du temps, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais là aussi, la santé au niveau européen, on a souligné que l'intérêt national a dû être dépassé, parce que rappelons que la santé n'est pas dans les compétences de l'Union européenne, ce n'est pas dans les traités. La santé, c'est national au départ. Eh bien, tous les États... se sont mis ensemble autour à Bruxelles pour dire il faut se mettre en commun là-dessus, autrement on ne s'en sortira pas.
Donc
voilà, c'est un exemple même à travers la difficulté que l'Union européenne a une valeur ajoutée.
Ce sera le mot de la fin et puis on termine sur une bonne nouvelle puisque finalement les vaccins, la santé à préserver, eh bien voilà. Eh bien nous vous disons... bonne semaine à tous, à bientôt. Et puis ne ratez pas de suivre l'actualité européenne. C'est une actualité intéressante et n'oubliez pas que nous sommes européens. Thank you.
Thank you.